France Culture. Grand reportage, Aurélie Kiefer.
L'État marocain, en la personne de Sa Majesté le Roi, s'est toujours engagé dans la lutte contre le sida.
Le Fonds mondial permet une souplesse dans les achats, une certaine flexibilité, ce que nous n'avons pas avec le ministère de la Santé. La réactivité de l'administration n'est pas suffisante pour faire face au problème.
Si le Fonds mondial s'arrête demain, qui va fournir les préservatifs? Qui va financer le travail de prévention auprès des populations marginalisées?
La bataille n'est pas encore gagnée. Près de 38 millions de personnes vivent toujours avec le VIH. Et les trois objectifs que s'était fixé l'ONU-SIDA pour 2020 ne seront pas atteints. Que 90% des personnes vivantes avec le virus sachent qu'elles sont porteuses du VIH, on n'y est pas. Que 90% des personnes se sachant séropositives bénéficient d'un traitement, on n'y est pas. Que 90% des personnes traitées aient une charge virale indétectable, on n'y est pas. Il y a pourtant eu de grandes avancées, notamment grâce au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Depuis sa création, en 2002, l'accroissement des financements a permis de faciliter l'accès au traitement et de faire baisser les décès liés au sida. Mais dans certains pays, la faiblesse des systèmes de santé et les atteintes aux droits humains freinent ces progrès. L'Afrique de l'Ouest et du Centre est toujours à la peine, et dans les pays à revenus intermédiaires, les acquis restent fragiles. Au Maroc, les acteurs de la lutte contre le sida appréhendent la 6e conférence de reconstitution du Fonds mondial qui se tient la semaine prochaine à Lyon. Ils redoutent une baisse des ressources et les conséquences que cela pourrait avoir au Maroc sur la prévention et la prise en charge. Lutte contre le sida au Maroc, un financement en danger, c'est un reportage signé Tara Schlegel. Dans Grand Reportage, le magazine de la rédaction, nous recevons l'ambassadrice pour la santé mondiale, Stéphanie Seydoux. Bonjour.
Bonjour.
Vous travaillez à l'élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie de la France en matière de santé mondiale, notamment la lutte contre le VIH. Et vous représentez la France au conseil d'administration du Fonds mondial de lutte contre le sida, entre autres. Nous avons également invité Aliou Sila, directeur de Coalition Plus Afrique. Bonjour.
Bonjour.
Coalition Plus qui réunit des organisations communautaires de lutte contre le sida, dont en France l'association AIDE. Alors ensemble, nous allons parler du financement de la lutte contre le sida, mais d'abord votre reportage, Tara Schlegel. Vous vous êtes rendue au Maroc, un pays où la population générale est assez peu touchée par le VIH.
Oui Aurélie, la prévalence est inférieure à 0,1%, c'est-à-dire comparable au taux de contamination en France. En valeur absolue, 12 000 personnes environ sont sous traitement au Maroc. Sur les 16 800 malades vivant avec le VIH qui se sont fait dépister, il y aurait encore 23% de séropositifs qui s'ignorent. Si la population générale est donc peu touchée, le VIH se trouve concentré, comme partout dans le monde d'ailleurs, dans les populations clés, homosexuelles, prostituées, migrants, usagers de drogue. Ce sont ces populations-là qu'il faut dépister et traiter en priorité, et c'est ce que finance justement en grande partie le Fonds mondial. Si on simplifie au Maroc, le gouvernement finance la moitié du coût de la lutte contre le sida, notamment en achetant les médicaments qui sont gratuits pour tous et en payant les médecins, et le Fonds mondial finance le reste, c'est-à-dire largement la prévention. Mais son enveloppe a été plus que divisée par deux. Elle est passée de 37 millions de dollars sur 3 ans à seulement 15 millions de dollars entre 2018 et fin 2020. C'est-à-dire que le Fonds mondial a commencé à se désengager. Et à partir de fin 2020, le Maroc va très probablement entrer dans une phase de transition que beaucoup redoutent.
Et nous partons à Casablanca, dans une section locale de l'ALCS, l'association de lutte contre le sida.
Je suis Youssef de Casa, 28 ans, infecté depuis 2018.
Tout au début, en fait, il avait un ami qui est parti à Qatar. À Qatar, il demande systématiquement la séropositivité. Donc, quand il a fait le test, c'est son ami qui s'est révélé positif. Alors, il était obligé de revenir du Qatar. Il ne voulait pas le dire aux autres. Qui sont ces autres? C'est 11. Ils sont 11 amis qui font entre eux le partout, du sexe de groupe. Donc, ça veut dire que l'ensemble, les 11, ils étaient positifs.
Donc quand il a appris sa séropositivité, à ce moment-là, il a perdu espoir complètement. Il a vu la vie tellement sombre, à tel point qu'il a fait 2 tentatives de suicide. La raison, en fait, pour lui, c'était qu'il a perdu tous les rêves qu'il avait puisqu'il était à Qatar. Il croyait qu'en fait, qu'il aurait une vie agréable avec tout ce qui est sourd, tout ce qui est argent. Tout a tombé dans l'eau.
en plus de ça, il craignait de comment il va être perçu par la société. C'est la raison pour laquelle il s'est isolé. Après un mois, il a appris pourquoi il devrait prendre ses médicaments. Donc, c'était le traitement qui va être initié. À ce moment-là, il a présenté Ayoub, qui est un médiateur thérapeutique, à sa maman, comme quoi c'est un ami, ou comme quoi il travaille au pavillon 23. Et ils ont fait un voyage en commun à Marrakech. Et il a ramené avec lui son traitement. Donc là-bas, lui, il prenait les médicaments. Sa mère, il s'est rendu compte qu'en quoi il commence à prendre des médicaments. Le soir, il est sorti avec Ayoub. Lui, elle, sa maman, elle a pris le flacon. Il a tapé le nom dans Google. Et bien, à ce moment-là, il s'est retrouvé devant un antirétroviral. À ce moment-là, elle a pu annoncer à sa maman sa séropositivité. Donc, quand sa maman, il lui a confirmé qu'en quoi il est séropositif, il a fait une crise d'hystérie. Elle a commencé à pleurer, d'autant plus qu'à chaque soir qu'il sortait, il lui disait « Youssef, attention, il y a le virus au Maroc ». Donc, il a fait une crise d'hystérie. Donc, elle commençait à prendre, en fait, à écarter tous les instruments saillants, comme les rasoirs, les ciseaux, les couteaux et tout ça. Tout ce qui est saillant qu'utilise Youssef, elle essayait en quelque sorte de l'écarter par inquiétude de que son petit frère l'utilisait et s'infectait. En fait, il s'inquiétait pour le petit frère. Ce qui a choqué Youssef, il n'a pas accepté. Il se sentait en fait trop stigmatisé, trop discriminé. Le pire était le moment où son petit frère a eu un ictère, en fait, une jaunisse. Youssef n'a pas accepté la réaction de sa maman. Il s'est senti détruit et lui demandait « Est-ce que vous êtes sûr qu'il est infecté par le virus ?» En fait, il a fait le test, il s'est révélé négatif. Donc à ce moment-là, il s'est retourné vers sa maman. « Pourquoi vous m'avez culpabilisé alors qu'il n'y a rien ? Vous n'étiez pas sûr ? Est-ce que je vais vivre avec vous dans ce climat, dans ce contexte ? À chaque fois qu'il y a un pépin, c'est moi le responsable. Je ne peux pas accepter ça. » Et à ce moment-là, ça a expliqué en fait les deux tentatives de suicide qu'elle a menées. À deux reprises, il a essayé de se suicider.
C'est la famille de l'Arf, Khouya le Kbir, Khouya le Srewar, ou maman.
Dans la famille, à ce jour-là, la personne qui connaît sa séropositivité, c'est son grand frère, son petit frère et sa maman. Son grand-père, non. Il ne connaît pas.
Son père non plus.
Non plus. Parce qu'il est très difficile de caractère et il ne peut pas l'annoncer à son père. شكون
بابا كيسسي
فاش دونك بابا كعرف بلي انك انت جاي بان جو ميكسكوز سون بير il a appris dernièrement qu'il est gay en fait qu'il est homosexuel comme vous voyez
et
il
vous
porte
a frappé
ouais avec un couteau donc
avec
il ouais il voulait l'égorger mais il l'a raté et bien sûr comme tu vois ça porte une cicatrice dans le bras avec une déformation musculaire, tu vois la déformation du bras.
C'était quand ça ?
Chahal a dit ? C'est 5 ans, il y a 5 ans.
Ok. Salam alaikum. Marhaba bikoum, shukran bzaf hijitou. Bonjour tout le monde, donc merci d'être venu, je vous remercie énormément d'avoir accepté de participer.
Ils sont une bonne quinzaine, serrés autour d'une petite table. Femmes en foulard coloré, arborant des lunettes de soleil, hommes en jogging, casquette à l'envers. Tour à tour, chacun, comme Youssef, va se raconter. L'atelier mené par la LCS, l'association de lutte contre le sida, porte sur l'estime de soi.
Je suis Soukaina Zaradi, je suis psychologue clinicienne. Le plus important, c'est de libérer la parole. C'est de leur permettre de parler de sujets qui peuvent être difficiles à aborder ailleurs, que ce soit dans leur famille ou dans leur entourage. Donc, il est très important. D'ailleurs, à la fin de l'atelier, c'est quelque chose qui est sorti. Donc, ils se disaient que c'était l'espace où ils pouvaient dire leurs secrets, dire les choses qui faisaient mal et qui pouvaient pas partager avec les autres. En même temps, l'objectif, c'est d'apporter un peu de positivité. Parce que quand on apprend sa séropositivité, c'est quelque chose d'assez bouleversant. Donc ça bouleverse les relations familiales, les relations de couple, les relations avec les enfants. D'ailleurs, il y en avait beaucoup qui parlaient de leurs enfants, le fait d'annoncer ou pas aux enfants, de leur dire. D'ailleurs, il y avait aussi une dame qui parlait justement de son fils. Elle lui a fait passer son test, elle a appris qu'il était séropositif quand il avait 5 ans et depuis, elle n'arrive pas à lui dire. Donc, sauf qu'un enfant, on doit lui dire avec ses mots, avec, il ne faut pas cacher la vérité, il faut dire la vérité à sa manière. Donc c'est sûr que ce qui est fait, elle n'a pas encore annoncé, mais c'est sûr que ça serait bien. Mais en tout cas, je lui proposais de venir par la suite et de pouvoir travailler sur ça en individuel et pour qu'on puisse peut-être l'aider à faire cette annonce et partager ça avec son fils.
À Casablanca, la LCS compte 2 sections locales. Ouvertes à tous, elles accueillent surtout les populations les plus vulnérables au VIH, prostituées, usagers de drogue, migrants, homosexuels, tous ceux qui fuient a priori les 1200 centres de dépistage mis en place par l'État, par peur de stigmatisation. Mais ici, au contraire, tout est fait pour les mettre en confiance, assure Fatiha, l'une des médiatrices sociales.
Nos interventions, par principe, doivent être centrées sur la personne. Ça, c'est le principe fondamental. Deuxièmement, cette personne, il faut qu'elle comprenne ce qui lui arrive, qu'elle s'accepte en étant séropositive, qu'elle apprenne aussi, il y a aussi de l'apprentissage, comment gérer sa séropositivité, comment gérer ses médicaments, pourquoi elle ne doit le prendre à vie. Planifier aussi cette vie de couple, parce qu'on travaille aussi la sexualité. On l'aborde avec les gens. C'est des trucs tabous que les gens n'ont pas l'habitude de... Déjà, ils ont du mal à partager leur séropositivité. Alors de là à partager leur sexualité tout en étant séropositif, c'est un travail. Et des fois, c'est à nous d'aborder ça avec les gens. Parce qu'il y va de leur qualité de vie, pour que les gens soient épanouis. Et c'est difficile, mais ça prend... Les gens sont demandeurs, vous savez, sont demandeurs. Une personne bien formée à faire cet accompagnement, elle peut réussir sa mission parce qu'il a demandé là. C'est sauf qu'elle n'est pas manifeste. Il faut aller la chercher. Et les gens s'épanouissent plus. On voit les gens se transformer. Des gens qui viennent, au début, qui viennent mal fagotés, etc. Et qui après commencent à venir avec soi, à se maquiller, à bien... Ça se voit. Dans leur regard, ça se voit. Ça veut dire qu'ils reprennent goût à la vie. Qu'ils reprennent le goût de se projeter dans l'avenir. Ils deviennent plus responsables. Et ils ne sont plus dans ce victimisme. Et on voit l'épanouissement.
On arrive à l'hôpital de jour. C'est ici que viennent les patients qui doivent juste prendre leur traitement de façon un peu ponctuelle, une fois par mois. C'est un espace tout neuf, tout beau, en béton blanc, avec un beau jardin tout autour des palmiers. Des gens, une femme entièrement voilée dont on voit à peine les yeux, une autre dame qui a juste un foulard, des hommes bien sûr également. Ici on a rendez-vous avec deux infectiologues qui vont nous expliquer comment ils collaborent avec les médiateurs thérapeutiques qui ne sont pas médecins mais qui prennent en charge toutes les questions des malades.
La médiation thérapeutique, c'est un volet extrêmement important dans la prise en charge.
Professeur Mahroum, chef du service des maladies infectieuses.
Parce que le médecin prescripteur n'a pas le temps de tout faire. Voilà. Quand on a une consultation où on doit voir 15 à 20 malades, ben, on n'a pas le temps de rester un quart d'heure à expliquer. D'accord ? Parce que les médicaments, il faut quand même les expliquer. Vous allez prendre tel médicament à telle heure, etc. Voir un peu le planning du patient, comment il vit, est-ce qu'il travaille de nuit, de jour, etc. Pour essayer de s'adapter à sa façon de vivre. Plus les différentes questions qui se posent parfois. Quelqu'un qui voyage, qu'est-ce qu'il doit faire? Le mois de Ramadan, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je peux jeûner? Est-ce que je ne dois pas jeûner? Est-ce que si je peux jeûner, comment je vais faire pour mon traitement? Les gens qui vont au pèlerinage de la Mecque, décalage horaire. Que faire avec ce décalage horaire? Comment le juguler, etc. C'est un questionnement pour le patient et ça peut être utile de discuter avec le patient de tout ça, sans parler des modes de transmission. Quand il se sent mieux, il y a le désir d'enfant. Un couple peut avoir envie d'avoir des enfants, donc il faut en discuter, il faut trouver les meilleures solutions.
Mais ça, c'est pas vous qui le dites.
On le dit, mais il faut le répéter. Il faut le répéter parce que, vous savez, quand on est en consultation, bien souvent, le patient, il n'entend que ce qu'il veut entendre. Vous allez lui dire des choses et lui, il capte que ce qui l'arrange. Les effets secondaires, en général, ça n'intéresse pas beaucoup, beaucoup. Je vous donne un exemple. Dans notre première ligne de traitement actuelle, nous avons parmi les trois composants, nous avons l'efavirenz, qui est un produit qui est connu comme pouvant donner des problèmes neuropsychiques. Ça peut donner des vertiges et ça peut donner des cauchemars. Alors imaginez quelqu'un, vous lui donnez un traitement, quelques jours plus tard, il commence à faire des cauchemars la nuit. Vous savez, on a vite fait de se dire, cauchemar, j'ai eu quelque chose, là, je vais mourir. Il est en train de me tuer, ce médecin. Donc si vous lui en parlez avant, quand il a le cauchemar, bon, il se dit, tiens, le médecin me l'a dit, effectivement, c'est le médicament. C'est pas que je vais mourir demain. D'accord ? Donc ça permet quand même de ne pas laisser libre cours à d'éventuelles pensées négatives. Et ça, bon, c'est fait en partie par le médecin, mais avec une aide très importante de la médiation thérapeutique.
Les quatre médiatrices thérapeutiques de l'hôpital, qui secondent les quatre médecins, collègues du professeur Maroum, sont détachées et payées par la LCS. Créée il y a 31 ans, cette association a été le véritable fer de lance de la lutte contre le VIH au Maroc. Sa fondatrice, Hakima Himish, a longtemps dirigé elle aussi le service des maladies infectieuses.
J'avais participé au deuxième congrès international sur le sida qui avait lieu à Paris, je crois, en 87. Et déjà, à l'époque, les dimensions non médicales, extra-médicales du VIH étaient évidentes. Il était évident que cette infection avait une dimension sociale, une dimension économique très importante. Et donc, avec une petite poignée de personnes, au début, mes élèves en médecine, mais aussi des enseignants en dehors de la médecine, quelques bénévoles, comme ça, on a créé cette association, qui pendant des années avait un budget complètement dérisoire, avait un petit local à la faculté de médecine. Eh bien aujourd'hui, c'est une association qui est présente dans 28 villes au Maroc, qui a 100 salariés, 150 intervenants de terrain, 300 volontaires. C'est une association qui a eu un poids dans la région, mais aussi un peu au niveau international. Mais sinon, on a commencé avec des dons d'associations françaises qui, à l'époque, nous envoyaient les médicaments que laissaient les nombreuses personnes qui décédaient. Et à l'époque, c'était possible de récupérer des boîtes entamées et de les envoyer dans les pays du Sud. Et un de mes collaborateurs, professeur Marhoum, quand il avait, avec toutes ces boîtes, quand il constituait un traitement pour 6 ou 8 mois, on démarrait un traitement. Et puis, bon, on avait comme ça une quinzaine de personnes, mais c'était ceux qui étaient au stade terminal qu'on traitait, pas les autres. Et puis, on s'est battu, mais vraiment battu, pour que le Maroc puisse bénéficier du fonds de solidarité thérapeutique créé par M. Chirac et M. Kouchner, à l'époque ministre de la Santé. Pourquoi il a fallu se battre ? Le Maroc est un pays où la prévalence était très faible, donc nous n'étions pas prioritaires. Et en fin de compte, nous avons été retenus à condition que nous prescrivions ces traitements avec la même rigueur que dans un essai clinique et que l'ONU-SIDA accepte de nous évaluer. À l'époque, on arrivait à peine à traiter 100 patients tellement les traitements étaient chers. Et puis il y a eu l'arrivée du Fonds mondial.
Alors le Fonds mondial, on a eu la chance de l'avoir en 2003, si mes souvenirs sont bons. Et donc ça nous a permis d'avoir la possibilité de traiter tous ceux qui avaient besoin d'être traités. Parce qu'auparavant, on avait des restrictions. On n'était pas à l'aise, les fonds n'étaient pas suffisants, donc on avait une liste d'attente, il y avait pas mal de choses qui posaient problème. Voilà, je pense que ça, ça a été la première très bonne chose. Et puis actuellement, nous avons des craintes. Voilà, avec le Fonds mondial qui devrait s'arrêter, on est censé être dans une période de transition pour que le ministère de la Santé prenne la relève. Je pense personnellement que ça ne va pas se passer aussi simplement que cela. Je peux déjà parler d'une difficulté concernant les antirétroviraux, c'est les ruptures de stock. Le Fonds mondial permet une souplesse dans les achats, une certaine flexibilité, ce que nous n'avons pas avec le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé, il faut exprimer les besoins. Une quantification est faite. C'est tant de produits que vous allez avoir. Vous allez les avoir dans un an et demi. Et puis, il faut faire avec ça. Voilà. S'il arrive le moindre pépin entre-temps, la réactivité de l'administration n'est pas suffisante pour faire face au problème.
Parce qu'aujourd'hui, par exemple, ça vous arrive déjà de devoir faire appel au Fonds mondial à propos des ARV uniquement.
Ah oui, 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 tout à fait. Je dirais que le Fonds mondial a sauvé la prise en charge à plusieurs reprises concernant des produits qui commençaient à manquer pour des raisons d'appels d'offres infructueux. L'appel d'offres est lancé auprès du ministère, mais au dernier moment, on apprend que personne n'a soumissionné. Et donc, boum, il faut trouver la parade.
Aucun laboratoire n'a répondu
Oui, ouais. Oui, c'est déjà arrivé. C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de gains, je pense aussi. D'accord. On va aller chercher des génériques. Des génériques qui ne coûtent pas cher. La marge est très, très faible. Ça n'intéresse pas grand monde. En plus, c'est des marchés qui ne sont pas très, très importants. Vous savez, pour nous, ça nous fait beaucoup. Quand on traite 12 000 personnes à l'échelle du Maroc, ça nous fait beaucoup. Mais en termes pharmaceutiques, hein, c'est rien du tout.
Malgré une certaine rigidité, le ministère de la Santé finance donc l'essentiel des trithérapies. Il paye aussi des salaires de la trentaine d'infectiologues. Il faut savoir qu'il manque 9000 médecins, toutes spécialités confondues, dans le royaume. Le ministère offre aussi des locaux, comme ceux occupés par la LCS, l'association de Hakima Himish. Mais tout cela ne suffit pas.
Si le Fonds mondial s'arrête demain, qui va fournir les préservatifs? Qui va financer le travail de prévention auprès des populations marginalisées? Vous le savez, nous avons des gouvernements dominés par les partis conservateurs dans plusieurs de nos pays. Et puis même, les gouvernements n'ont pas suffisamment... Ils arrivent à peine à payer le traitement, ils ne vont pas payer aussi la prévention. C'est un volet qui va s'effondrer, mais complètement. Or, si on arrête aujourd'hui la prévention... Eh bien, l'épidémie va flamber. Et le traitement, ce n'est pas que les médicaments, c'est l'éducation thérapeutique. Le traitement, non seulement doit être disponible, mais il faut expliquer à la personne que c'est capital de le prendre régulièrement, de façon à avoir une charge virale négative, de façon à casser la chaîne de transmission. Et ça, au Maroc, par exemple, il n'y a même pas. Il y a à peine une petite ébauche d'éducation thérapeutique pour une minorité de diabétiques. Il y a des diabétiques qui deviennent aveugles sans savoir que c'est parce qu'ils n'ont pas suivi leur traitement. Sérieusement, qu'ils deviennent aveugles, que ce n'était pas une fatalité. Eh bien, ça, grâce à la LCS, et c'est pareil au Mali avec Arcad Sida, pour ne citer qu'eux, eh bien, il y a une prise en charge globale.
Cette prise en charge globale rejoint les objectifs du programme des Nations Unies chargé de la lutte contre le sida, éradiquer d'ici 2030 une maladie qui tue encore 1 million de personnes par an dans le monde.
Alors, docteur Kamal Alami, le directeur pays de l'ONU Sida au Maroc. D'abord, le Maroc a une réponse très précoce, puisqu'il a démarré sa riposte dès les premiers cas de sida, mais c'est à partir de l'année 2003 et 2002-2003 où le Maroc a commencé à faire des plans stratégiques nationaux. On voit que, par exemple, les programmes pour les populations clés, bien sûr, grâce à l'appui du Fonds mondial, ont pu être mis en œuvre. C'est très important parce que d'après toutes les études biocomportementales, donc il faut dire que le Maroc a un bon système de suivi et d'évaluation. Il a une épidémie concentrée parmi ces populations clés. Donc la prévalence parmi les professionnels du sexe, c'est autour de 1%. Parmi les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes, 4,6%. Et parmi les personnes qui s'injectent des drogues, 7,1%.
Alors que dans la population générale, en revanche,
la population générale, la prévalence est très faible. C'est une prévalence qui est inférieure à 0,1%. Donc c'est 0,08 comme ça. Donc c'est vraiment une épidémie concentrée. C'est pour ça qu'il faut avoir une approche pragmatique. Il y a bien sûr un contexte socioculturel qui peut être en défaveur justement de la question de travail avec les populations clés, la question de la stigmatisation, de la discrimination dans la société parmi ces populations clés. Mais on a aussi travaillé avec des institutions religieuses. Et notamment nous avons bien sûr l'Arabeta, Mohammadiyya des Ulema. C'est une institution religieuse marocaine. Donc on a eu quand même des programmes de sensibilisation. Il y a eu même des prêches qui ont été organisées, ça fait quelques années maintenant déjà, sur la question du sida pour lutter contre la discrimination et la stigmatisation. Donc il y a eu un bon partenariat. D'ailleurs, le ministère des Affaires islamiques, il participe également aux visites sur le terrain, et y compris les visites pour les programmes des populations clés.
Le gouvernement au Maroc est dominé par les islamistes depuis 2011 et le réveil des printemps arabes. Mais la puissance publique ici, c'est d'abord la monarchie. Le roi Mohamed VI peut révoquer n'importe quel ministre et impulser sa politique de santé publique. Le docteur Amina El-Khetani est responsable de la lutte contre le sida au ministère de la Santé.
L'État marocain, en la personne de Sa Majesté le Roi, s'est toujours engagé dans la lutte contre le sida en rencontrant d'une manière médiatisée une personne vivant avec le VIH. Il est allé le visiter dans un centre hospitalier et c'était vraiment une impulsion pour la lutte contre la stigmatisation sur le plan social et sociétal.
On a quand même parfois l'image du Maroc comme d'un pays musulman, il y a un gouvernement islamiste, on se dit que l'homosexualité est criminalisée, les usages de drogue aussi. En France, l'usage de drogue est aussi criminalisé. Il n'y a pas qu'au Maroc. Mais malgré tout, vous arrivez à toucher ces populations et vous faites de vrais efforts en direction de ces populations. Comment est-ce qu'on explique ? Est-ce qu'il y a un paradoxe ?
On arrive à toucher les populations clés parce qu'il y a une véritable collaboration très très étroite entre le ministère et la société civile. Sans la société civile, on n'aurait jamais pu toucher ces populations. Aussi, le Fonds mondial a permis de mettre autour de la table plusieurs partenaires, notamment le ministère des Affaires islamiques, le Conseil national des droits de l'homme, d'autres institutions. Donc, le débat est créé et on est face à une problématique et on ne peut pas riposter en fermant les yeux. Nous savons que les populations clés existe et que si on n'intervient pas là où le mal, c'est-à-dire là où l'épidémie se propage, on n'aura pas de résultat par rapport à l'épidémie. Donc nous sommes un pays où plusieurs partenaires sont assis autour d'une même table avec un appui très dynamisant et catalyseur du Fonds mondial.
Et quand vous citez par exemple le ministère des Affaires islamiques, quand vous discutez avec lui, vous êtes d'accord sur ses objectifs ? Vous vous disputez jamais ou il y a un consensus ?
Non, il n'y a pas lieu de se disputer parce qu'on travaille tous sur une même stratégie avec deux objectifs, c'est de réduire les nouvelles infections et de réduire les décès liés au VIH. Et chacun met en œuvre les outils dont il dispose, donc on n'est pas du tout dans la contradiction parce qu'on vise un bien de la population.
Pour favoriser ce dialogue justement entre le ministère et les représentants de la société civile, un comité de pilotage est réuni ce matin-là au siège de la LCS. C'est l'une des originalités exigées par le Fonds mondial dans tous les pays où il opère, mettre autour d'une même table les États et les personnes vivant avec le VIH pour évaluer leurs besoins. Après cette réunion, le militant Alim El Gadari, qui se bat au sein de l'ITPC pour faire baisser le prix des médicaments, discute avec la correspondante du Monde au Maroc, Théa Olivier.
Le Maroc, je pense que c'est une société à deux vitesses. Il y a ceux qui aspirent à la modernité, mais malgré tout, il y a quelque chose qui leur tient le pied, la religion en l'occurrence. Et moi, je pense qu'on ne peut pas... Enfin, tout à l'heure, j'avais un petit débat avec Fouzia. Elle abordait l'angle de la santé publique, ce qui est vrai. Mais on a vu que ça ne marche pas vraiment, puisque les lois existent encore, et je lui disais que peut-être ce serait bien l'aborder sous l'angle des libertés individuelles. Et qui dit loi individuelle, peut-être suppression de ces lois qui pénalisent l'homosexualité, et pas que, qui freinent pour moi, mais vraiment, l'accès à la prévention et au traitement.
Mais est-ce que c'est quelque chose qu'on peut dire aujourd'hui, faire publiquement ?
Oui, bien sûr.
On peut réclamer ?
Oui. Non, bien sûr, parce que quand il y a des cas, par exemple, d'arrestation d'homosexuels, les gens se mobilisent. Je crois même qu'il y a eu un sitting hier.
Devant le tribunal.
Donc oui. Après, je crois que c'est la ligne rouge qu'il ne faut pas franchir, en tout cas au Maroc.
Il y avait aussi le cas des deux homosexuels qui avaient...
Non, il y avait eu en fait deux jeunes qui étaient chez eux, je crois, et qui ont été surpris par les voisins en train... Enfin, je sais pas. Donc, ils ont été arrêtés pour homosexualité.
Ils avaient été
agressés.
Ils avaient fini en sang.
Oui.
Ils ont porté plainte pour agression et ils ont pris plus d'années de prison que leurs agresseurs.
Oui, ce sont des cas courants, même dans d'autres pays, comme en Tunisie, très récemment. Bah oui, c'est qu'il y a une loi qui n'est pas favorable à ces populations. Malheureusement, on continue à arrêter et aussi même il y a d'autres lois par exemple qui interdisent la sexualité hors mariage.
Mais quand vous dites ça, vous me dites qu'on peut le dire à Lim, mais en même temps, est-ce que c'est un discours qui s'entend facilement ? Est-ce qu'il est porté par beaucoup de gens dans la société marocaine ?
Bon, c'est vrai que les lois existent, elles pénalisent, mais en même temps on n'est pas non plus l'Iran ou l'Arabie Saoudite où là pour le coup Il y a quand même des lieux où les gays peuvent se rencontrer. Il y a aussi il y a des organisations de lutte contre le sida. Mais je crois qu'au Maroc, de plus en plus même ces dernières années, il y a des associations LGBT qui se sont créées, peut-être informelles, mais ça existe. Et ils font un gros travail, que ce soit au Maroc, mais aussi dans la région et au niveau international.
Ce n'est pas des associations, ce sont plutôt des collectifs ou des mouvements en général.
Oui, absolument.
Ils ne sont pas, parce qu'il faut rêver pour avoir les autorisations d'associations, mais ils ont encore du mal à avoir une parole publique dans les médias, sur les réseaux sociaux, souvent ils se cachent.
Ils voulaient pas te
parler ? Ils m'ont parlé, je les ai rencontrés, mais sans micro. Et parmi certains leaders de certains collectifs, ils ont dû partir en Europe. Ils ont
quitté
le Maroc, ouais.
À 470 km de Casablanca, nous voici sur la côte méditerranéenne, à deux pas de l'Espagne. Dans cette petite ville de 60 000 habitants, la drogue circule très facilement. L'équipe locale de la LCS a dénombré 90 usagers qui s'injectent de l'héroïne. Elle nous conduit à quelques pas d'un poste de police dans un terrain vague.
Nous sommes en Médiac, la ville la plus connue des injecteurs. C'est une ville touristique.
Là, c'est on dirait une ancienne maison détruite.
Non, c'est une villa. C'est une squat, loin de la population.
Cachée un peu dans les
arbres. Oui.
Là, les gens qui sont là, toi, tu les connais bien.
Oui.
Tous.
Oui, oui. Je connais leur prénom, leur famille, où ils habitent, tout. Parce qu'on est des relations depuis 10 ans.
Bientôt, une poignée d'hommes et une femme s'approchent de Safa et des autres intervenants. Ils viennent chercher les seringues propres et les kits de réduction des risques financés par le Fonds mondial. Ahmed porte un survêtement blanc et orange. Il tient à nous raconter quand il est tombé dans la drogue.
Salam
alaikum.
Il dépense 50 euros par jour pour se droguer et s'injecter de la drogue. Depuis 1993. 15 ans, il a commencé. Il a
41
ans. Il s'injecte, il nous montre tous les endroits. Il a plus de veines.
Il est dans l'obligation de faire des injections plus profondes puisque le capital veineux superficiel, il est abîmé.
Il dit je veux arrêter, mais je trouve pas les médicaments, ils donnent rien.
Queremos pastillas o algo para quitarnos metadona o algo. Aquí en Marruecos no dan nada.
On veut des médicaments, des comprimés, de la méthadone, mais ici au Maroc, on ne nous donne rien.
Pourtant, la méthadone, produit de substitution à l'héroïne qui évite de partager des seringues potentiellement contaminées, existe au Maroc depuis 10 ans. Le pays a été pionnier. Mais pour se soigner, il faut aller chaque jour au centre d'addictologie à Tétouan, à une vingtaine de kilomètres. Et les habitants de Médiacre ne sont pas prioritaires. Il est 23h30, nous sommes de retour à Tétouan. Le bus de dépistage s'est arrêté comme tous les samedis, porte du cimetière.
Fais attention.
Et là, comment tu fais pour pas marcher sur les tombes ?
Tu vas passer par là. Avec cette obscurité, comme vous voyez, il n'y a pas de lumière, pas de... Heureusement qu'il y a la lumière de la lune.
Ça fait longtemps qu'ils viennent ici ?
Ouais, depuis 2014 qu'on est des permanences. On sait très bien que c'est un point chaud le soir. Puisque les usagers qui passent la journée en cherchant de quoi acheter leur dose, donc le soir, ils viennent ici.
Pour être tranquille, quoi.
Pour être tranquille, ouais. C'est la raison pour laquelle on essaie de faire ce point permanent une fois par semaine. On essaie de les rattraper le soir ici. Et comme tu vois, l'équipe est là, tu sais, de la confiance avec les usagers, comme vous voyez. Même si le lieu il fait peur, mais il n'y a aucune crainte par rapport à l'équipe. Sans problème.
C'est
là où il squatte. Elle est noire parce qu'il fume dedans.
C'est en fait, c'est tout brûlé, hein.
Oui.
Ouais.
Les matelas.
C'est les matelas, c'est les affaires des usagers.
Ils ont brûlé ?
Non, c'est pas les usagers qui ont brûlé. Ils m'ont dit comme quoi c'est les habitants de ce quartier qui ont agressé les usagers, ils ont attaqué les usagers. C'est tout ça, c'est des matelas, c'est tout. C'est
qui, qui ont été incendiés.
Ah, ça fait 3 jours.
Et depuis longtemps, ils habitaient ici ?
Oui. On les connaissait depuis longtemps. D'ailleurs, j'ai demandé auprès des intervenants, ils m'ont dit comme quoi aujourd'hui, ils n'ont pas passé. C'est inhabituel, quoi.
C'est pour toucher ces exclus parmi les exclus que travaille avec acharnement Safa et toute l'équipe du docteur Hamas. À Casablanca, la LCS fondée par Hakima Rimich sait pertinemment que sans un aiguillon extérieur, tous ces efforts pourraient bien s'effondrer.
La menace actuellement, elle est sur les pays à revenus intermédiaires.
Comme le vôtre.
Or, oui, comme le nôtre, comme l'île Maurice, comme... Or, je ne sais pas si le chiffre date de 2 ans environ, 70% des personnes vivant avec le VIH sont dans des pays à revenus intermédiaires. Nous ne sommes pas peanuts dans l'épidémie. Hein, et nous sommes très fragiles, et sans le Fonds mondial, on n'y arrivera pas. Vraiment. Et les besoins du Fonds mondial ont été estimés à 14 milliards de dollars. Pour nous, c'était vraiment bas. Hein. Mais maintenant, il faut y arriver. Plusieurs pays ont annoncé des augmentations, l'Allemagne, le Canada, le Royaume-Uni, mais nous attendons beaucoup de la France. La France a été un leader en matière de recherche. Le prix Nobel, Françoise Barré-Sénoussi est française. Et le Fonds mondial a été créé en grande partie à l'initiative de la France. Donc nous attendons de la France qu'elle augmente au moins de 25%. Sa subvention. S'il n'y a pas cette augmentation, on n'arrivera pas aux 14 milliards de dollars. Nous en avons besoin. Et en plus, quand même, il faut réaliser que c'est la première fois, il y a eu, je crois, très peu de moments dans l'histoire de la santé mondiale où on a dit on en termine avec une épidémie. Il y a eu la variole avec la vaccination. Mais là, on a tous les moyens pour venir à bout de l'épidémie de paludisme et de VIH. La tuberculose, c'est un peu plus compliqué. Il suffit de continuer sur cette lancée. On peut y arriver en 2030 si on a les moyens. Si on diminue les moyens, bon, on le payera très cher dans les années qui suivent. يا الجبال مقابل الجبال يا راسي وش هاد الهبال خلوني في حالتي خلوني في حالتي
Lutte contre le sida au Maroc, un financement en danger, un reportage de Tara Schlegel avec Annie Bro à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Avec nous pour prolonger ce reportage, Aliou Silla, directeur de Coalition Plus Afrique, et Stéphanie Seydoux, ambassadrice pour la santé mondiale. Stéphanie Seydoux, vous avez entendu Hakima Rimich, nous attendons beaucoup de la France et sa demande d'augmentation de la contribution française au Fonds mondial d'au moins 25%. C'est une demande réaliste.
Je vous remercie beaucoup pour ce reportage magnifique, très émouvant. J'ai été très heureuse d'entendre la professeure Hakima Rimich raconter le début de son combat, qui était un véritable combat de battante, et on l'entend vraiment dans ce reportage. Très heureuse aussi que, par ses mots, Hakima Rimich reste battante et nous engage effectivement à continuer à rester extrêmement mobilisés. Le montant est réaliste, bien sûr qu'il l'est, parce qu'il faut absolument recueillir suffisamment de moyens pour continuer, comme l'a très bien dit la professeure Rimich. niche, et comme d'autres l'ont dit également dans le reportage. Ce qu'il faut entendre par moyen, c'est évidemment un volume, mais c'est aussi une méthode. Et on l'a entendu aussi, ce qui a fonctionné avec le Fonds mondial depuis le début, qui continue à fonctionner et qui est aussi une condition de succès pour l'avenir, c'est que, comme elle l'a dit, est arrivé le Fonds mondial. Il y a eu en 2002 ce volume financier considérable qui est arrivé. Et j'aimerais prendre une petite seconde pour quand même évoquer la mémoire de Jacques Chirac, qui a été parmi ceux qui ont été absolument déterminants au plan le plus élevé au niveau politique international pour faire vivre cette idée d'un fonds de lutte contre les injustices, et l'injustice énorme qui était que les malades étaient au sud et les médicaments étaient au nord, et ça, ça a été illustré aussi de manière extrêmement claire par le reportage. Et il y a donc eu cet engagement considérable de la communauté internationale de donner assez de moyens en volume pour qu'on puisse donner dans les pays assez de traitements, assez de moyens de prévention, assez de moyens de diagnostic.
Alors justement, pour l'avenir, est-ce que là, on peut s'attendre la semaine prochaine à des annonces françaises conséquentes ?
Mais j'avais pas tout à fait terminé. C'est des moyens et c'est une méthode.
C'est les deux à la fois.
Et les deux sont aussi importants. Et dans la méthode, et c'est en ça que le Fonds mondial a vraiment changé aussi la donne, mais les deux se complètent, c'est aussi ce qui a été bien dit dans le reportage, c'est de faire deux choses dans les pays. C'est d'une part, engager les autorités nationales autant que possible, dans ces mécanismes qui, localement, mettent autour de la table les autorités, bon, les ministères de la Santé, mais pas seulement, la société civile, les autres partenaires internationaux, et qu'ensemble, ils travaillent. Et ça a vraiment une importance majeure, parce que des personnes se mettent autour de la table qui ne se rencontraient pas nécessairement, surtout pour aborder les problèmes très spécifiques des populations vulnérables, des populations clés dont on a parlé. Et il y a une deuxième chose aussi, qui est justement d'encourager et d'accepter que précisément, en matière de santé et d'approche spécifique de ces populations, le plus efficace, c'est de passer par des associations telles que SCS au Maroc. Et je suis sûre que Ayoussila va nous parler d'une association aussi extraordinaire qui est Arkat Sida au Mali, et qui sont des personnes qui agissent d'une manière spécifique. Ce sont des professionnels, ils sont formés, ils ont une méthode pour intervenir, ils ont du temps, ils construisent la confiance et ils vont vers des personnes qui ne vont pas spontanément. Donc du volume et une méthode. Et je ne fais pas ce n'est pas un détour pour ne pas répondre à votre question, mais c'est pour expliquer de quoi il s'agit. Il s'agit d'avoir suffisamment de moyens. Et ça, il y a une mobilisation qui a été engagée, elle a été évoquée aussi par le reportage, et on peut en dire un peu plus, elle est exceptionnelle. Ça n'avait jamais, de mémoire, de Fonds mondial été aussi élevé à ce stade dans les derniers jours de la reconstitution, en termes d'annonces qui ont déjà été faites.
Il y a plein de pays qui se sont engagés, on attend l'engagement de la France, mais il y a déjà plein de pays qui ont annoncé de substantielles augmentations de leur contribution.
Et l'engagement de la France sera évidemment à la hauteur, mais c'est le président de la République qui l'annoncera naturellement le 10 octobre. Mais il est aussi important sur la méthode et sur la poursuite, effectivement, dans les pays, des bonnes façons de relayer de manière très efficace l'action du Fonds mondial. Tout seul, le Fonds mondial ne peut rien.
Juste pour donner quelques chiffres quand même, le Fonds mondial on espère qu'il va lever 14 milliards de dollars. Donc c'est quand même des sommes énormes. La France, jusqu'à présent, a un budget de 1,08 milliard, je crois, dollars aussi. Et là, pour la France seulement, si on augmentait de 25% la contribution, ça voudrait dire que chaque année, l'État français donnerait 90 millions d'euros à peu près, ou de dollars supplémentaires chaque année. Donc est-ce que vous pensez que ces chiffres qui sont quand même très importants sont des chiffres qui sont justement, les choses à la disposition d'Emmanuel Macron? C'est-à-dire que moi, quand je discute avec les ONG, on est très frappés. Elles s'adressent directement au président de la République, comme s'il avait, lui, la main vraiment sur cette enveloppe. Est-ce que c'est lui qui va décider, ou est-ce que ce sont les députés français qui votent?
Ces fonds sont décidés en France comme pour l'ensemble des dépenses publiques et comme pour l'ensemble de l'aide au développement. Ce sont des décisions qui sont prises suivant les processus habituels. Le président de la République, lui, s'est engagé et s'est mobilisé auprès de ses homologues pour obtenir plus particulièrement une levée de fonds. Et il reste engagé jusqu'à la dernière minute de manière à absolument recueillir les montants nécessaires. Sur la contribution française, elle est colossale. La France est le deuxième donateur historique du Fonds mondial. 4,6 milliards d'euros ont été donnés par la France au Fonds mondial depuis l'origine, et ça fait 360 millions d'euros par an. C'est un montant
Ils veulent 450, je crois, à peu près, millions
et d'euros. Il faut se poser aussi la question du montant, mais aussi de l'efficacité et de la bonne façon de s'assurer que chaque euro dépensé, chaque dollar, puisque ça se transforme en dollar quand on est au Fonds mondial, ensuite va au plus efficace. Alors je veux pas tout à fait clore le débat tout de suite, mais parce que je pense que c'est très important qu'on partage aussi avec Aboussila là-dessus, mais pour que chaque euro et chaque dollar soit bien efficace, il faut qu'on s'assure qu'ils puissent aller effectivement dans ces populations clés dont on a très bien parlé dans le reportage. C'est-à-dire qu'il faut à la fois rester au niveau massif, qui est assez de traitements dans les pays où ça ne sont pas dans ces populations clés qui est concentrée l'épidémie, mais en population générale. Et là, ça marche aussi très bien. Il faut qu'on assure ce travail beaucoup plus fin, beaucoup plus délicat, qui demande un investissement qui a été décrit, un investissement qui prend du temps, pour réussir à aller encore mieux dans les pays où, pour le moment, on n'obtient pas une baisse de l'épidémie suffisante.
Alors, Aliou, si là, on sent bien l'inquiétude marocaine, mais dans la répartition de ces sommes en provenance du Fonds mondial, on peut comprendre que les pays les plus loin du but soient prioritaires, qu'ils soient plus aidés que les autres. Ça paraît logique, non?
Oui. On parle du Maroc. Quand nous prenons les pays membres de notre Union, le Mali, le Maroc, l'Équateur avec Kim Irina, la Bolivie, la Roumanie, nous voyons que le principe de transition prôné par le Fonds mondial suscite une véritable crainte. Vous avez entendu le rôle des médiateurs. Et nous, au niveau communautaire, c'est notre innovation, c'est notre savoir-faire. Et si ces médiateurs qui sont là, dont leur salaire est assuré par le financement du Fonds mondial, imaginez quand le Fonds mondial part, c'est la catastrophe.
Il y a une crainte que tout s'écroule.
Exactement.
Et tout ce qui a été fait...
Voilà, c'est la perte. Et dans nos différents pays, il ne faut pas se voiler la face. On est encore très loin de la levée des barrières socio-juridiques, culturelles et religieuses. L'homophobie est très forte. La sérophobie est très forte. Parler de l'homosexualité, parler de l'usage de la drogue, des professionnels de sexe, ce n'est pas demain que ça va finir. Nous avons mené notre petit combat en mettant des cliniques de santé sexuelle communautaire. Et nous sommes en train de nous attaquer avec l'appui du Fonds mondial là où les ministères de la Santé ne vont pas, c'est-à-dire l'épidémie dynamique. Là où les personnes sont les plus difficiles à toucher. Moi, je suis gay aujourd'hui au Mali, mais si je suis marié, bon, je suis tranquille. Donc, ma bisexualité va me permettre de continuer et je risquerai de contaminer la population. Donc, moi, c'est pour vous dire, nous n'avons pas le droit. Nous ne pouvons pas, ni la France, ni aucun pays, nous ne pouvons pas. Le président Emmanuel Macron est obligé aujourd'hui. Le sens de l'hospitalité française, en appelant les différents pays d'augmenter leur contribution, je suis convaincu que lui-même, il va prendre un acte qui va rester historique. Parce que, très sincèrement, nous allons dire à nos dirigeants, financement domestique, ne nous leurrons pas. L'aide au développement, depuis combien de décennies, nous ne parvenons pas à atteindre 15% de notre budget alloué à la santé. L'aide au développement public en Europe, ici, 0,7% du PIB. Je me dis, il y a la marge de manœuvre.
Stéphanie Sédou, est-ce que la France a effectivement le souci de continuer d'accompagner ces pays à revenus intermédiaires?
Oui, absolument. Alors, pour être concret, la France est présente au Conseil d'administration du Fonds mondial. C'est mon rôle. Je porte les positions françaises dans ce cadre. Et ça, c'est une position constante de la France que d'avoir une attention particulière aux bonnes conditions de fonctionnement du Fonds mondial et de l'efficacité, de la soutenabilité de son action. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons aujourd'hui que soit conduit un véritable débat, c'est pas le mot, mais enfin une réflexion pour améliorer justement les conditions de la transition. Nous ne sommes pas, et bien heureusement, seuls à porter cette préoccupation. Elle est très partagée au sein du conseil d'administration du Fonds mondial. Ça n'est pas une question simple, parce que on l'a vu, il n'y a pas qu'une question de moyens, même si cette question est importante. Il y a des questions qui sont très précises et très concrètes. Il y a une question de capacité. encore une fois, très bien illustré dans le reportage. Si on devait, si on enlève ce soutien du Fonds mondial, est-ce qu'on a des circuits d'approvisionnement sur place, des pharmacies centrales qui fonctionnent assez bien pour permettre d'avoir cette fameuse flexibilité qui est nécessaire ?
Sur les stocks de médicaments.
Sur les stocks de médicaments, ça se construit dans le temps. Un exemple là-dessus, la France, via son aide bilatérale de l'Agence française au développement, est en train en Afrique de l'Ouest de monter des programmes qui permettent précisément de faire monter l'expertise et la capacité d'un certain nombre de pays d'Afrique de l'Ouest pour amener ces conditions de la transition. Donc ça, c'est pour illustrer sur les infrastructures. Pareil, la formation des personnels médicaux. C'est aussi, bon, puis il y a la question du paiement et des moyens suffisants réservés dans les budgets, 15%, hein, ça c'était les objectifs qui s'étaient fixés les pays africains, tous n'y sont pas, loin de là, mais c'est bien sûr nécessaire pour pouvoir payer les personnels qui ensuite... Donc ça, c'est une préoccupation qui est portée par la France, à laquelle elle contribue par ses programmes bilatéraux, ça n'est pas quelque chose de simple à résoudre.
Tâche légale. Pour parler encore de ce que fait le Fonds mondial, il y a effectivement, vous venez de le citer, la rétribution bien sûr des médiateurs thérapeutiques. Il faut dire qu'ils sont très peu payés quand même, hein. Par exemple, au Maroc, c'est 2100 dirhams, c'est-à-dire à peu près 200 euros par mois. Donc c'est vraiment ridicule. Et il y a aussi ce que Madame Sidou vient de dire, la formation des médecins qui est financée en grande partie par le Fonds mondial. Et ce qui est très intéressant au Maroc, mais je pense que Monsieur Aliou Silla va pouvoir en parler pour d'autres pays aussi, c'est que cette formation finalement elle bénéficie à tout le système médical. C'est-à-dire qu'à travers le Fonds mondial qui aide pour le VIH et la tuberculose, en fait, ce sont tous les systèmes de santé de ces pays du Sud qui vont s'améliorer.
Oui, nous l'espérons. C'est-à-dire que c'est là où nous avons demandé au Fonds mondial que l'outil qui est mis en place, c'est un vrai outil d'intégration pour améliorer le système de santé. En cela, qu'il soit public et qu'il soit communautaire. C'est-à-dire que tous les acteurs clés communautaire, public, privé, universitaire, religieux, autour d'une table pour définir des priorités, identifier des besoins et trouver des solutions vraiment à travers ce qu'ils appellent le mécanisme pays de coordination qui est le CCM est une excellente chose. Seulement, il faudrait qu'on puisse dire, et je profite parce que j'ai Stéphanie Seydoux en face de moi, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une attention particulière au pays dont le français est la langue de travail, qui aujourd'hui, dans leurs négociations avec le Fonds mondial, sont plus en difficulté
que les pays anglophones.
Et là, la langue de travail joue vraiment un véritable rôle. Je crois qu'il doit y avoir de la vigilance, de la bienveillance de la part de la France pour que vraiment cela se voit. Et le système de santé, elle a parlé tout de suite de problèmes d'approvisionnement. Je cite un exemple, le dolutégravir. Aujourd'hui, c'est une molécule où l'OMS a recommandé, où tout le monde voudrait qu'on puisse l'avoir.
En première ligne.
En première ligne.
Il faut la donner tout de suite.
Justement. Ouais. Et tu vas trouver que dans nos pays, les protocoles thérapeutiques doivent être modifiés. La charge virale qui doit être le marqueur n'est pas encore disponible au niveau de tous les pays. Je la demanderai simplement, c'est que les hôpitaux français bénéficient de l'approvision, de l'acquisition des appareils de charge virale avec la maintenance et les réactifs, si nous pouvons en bénéficier de la part des fournisseurs et des labos, ce serait quelque chose.
C'est un exemple extrêmement intéressant. Le dolutégravir, c'est une nouvelle molécule. Elle existe en France depuis 2015 à peu près. Et au Maroc, alors qu'il y a les autorisations, finalement, pour l'instant, ce n'est pas encore disponible. Exactement. Parce qu'il y a un stock de médicaments qui existe, qui est encore à écouler, parce que les nouveaux appels d'offres n'ont pas été lancés, et parce que le Maroc s'est battu pourtant énormément pour faire partie des pays qui pourront en bénéficier. Ça, Madame Sidou, j'imagine que aussi vous portez cette parole, non, quand vous êtes au Fonds mondial.
Oui, bien sûr, et d'autant que le dolutégravir a pu être présenté comme une solution qui peut être mise à l'échelle, même si encore imparfaitement, parce que c'est devant nous, grâce aussi au travail d'une agence à laquelle la France contribue énormément, qui est United, une agence d'innovation, elle aussi créée il y a quelques années sous impulsion française, et qui justement complète parfaitement le Fonds mondial, puisque c'est celle qui trouve les traitements, les solutions, qui sont ensuite déployées largement par le Fonds mondial. Donc on est très attentif à cette question du dolutégravir et de sa diffusion.
Stéphanie Seydoux, juste un dernier mot, est-ce qu'on peut encore miser sur l'éradication de l'épidémie d'ici 2030?
L'éradication n'est pas le terme qui est choisi par l'OMS, c'est l'élimination. C'est évidemment un objectif qui est atteignable. Pour ça, il faut qu'à chaque étape, on soit au rendez-vous et c'est ce qui va se passer la semaine prochaine, le 10 octobre à Lyon.
Merci beaucoup Stéphanie Seydoux. Merci également à Lucila. Lutte contre le sida au Maroc, un financement en danger. Le grand reportage de cette semaine était signé Tara Schlegel. Réalisation Annie Brou avec Jean-Frédéric à la technique. Vous pouvez bien sûr réécouter et podcaster cette émission de la rédaction sur franceculture.fr.